Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Des molécules pour manger les marées noires, des cellules de poisson pour les cœurs fatigués, des chiens à qui l'on redonne la vue et demain peut-être des banques d'organes à disposition de chacun pour pallier aux maladies et en partie à la vieillesse. La biotechnologie et toutes ces technologies sœurs sont déjà là et on ne le sait souvent pas. Demain, elles nous promettent un avenir incroyable qui n'est pas sans poser de questions. Nature modifiée, homme augmenté, nouveaux êtres vivants de synthèse, risque de déséquilibre naturel ou de sélection des êtres humains, explication. Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin, donc biotechnologie, faut-il avoir peur? Je reçois ce matin au Notre-Dame Catherine Dupré-Goudable, vous êtes présidente du conseil d'orientation de l'EREMIP, espace de réflexion éthique de Midi-Pyrénées, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Vincent Grégoire Delory, vous êtes entre autres donc directeur de l'école supérieure d'éthique des sciences et de la santé et responsable du plateau éthique Toulouse-White Biotechnology, WB. Bonjour aussi.
Bonjour.
Et cette émission donc, qui a lieu, puisque aujourd'hui commence donc, à Toulouse, à l'espace du Capitole et à l'Hôtel Dieu, donc le forum Cité Éthique, avec ce titre « Humain programmé », point d'interrogation, on y reviendra évidemment, et le sous-titre étant « Éthique et nouvelles technologies ». Il faut le préciser, ce forum Cité Éthique qui est sous le patronage de Claudie Aigneret, donc première femme dans l'espace, première française pardon, qui a été dans l'espace. Alors on va commencer cette émission en expliquant tout simplement, je compte sur vous pour faire de la pédagogie, nous expliquer un peu ce que sont que les biotechnologies. Et si vous deviez commencer par nous donner une définition des biotechnologies, qu'est-ce que vous diriez Vincent Grégoire Delory?
Eh bien je dirais que tout est dans le mot biotechnologie, c'est-à-dire des technologies construites à partir des propriétés du vivant, qu'on connaît très bien tous, des réactions chimiques qui peuvent nous intéresser dans notre vie quotidienne, des simples réactions chimiques. Et le vivant est capable de faire des réactions chimiques, est capable de faire un certain nombre de choses. Et les biotechnologies, c'est l'ensemble des, on va dire, des techniques, des technologies qui permettent pour des ingénieurs du vivant donc, eh bien de faire au vivant, eh bien, de produire par exemple des molécules, de faire des réactions chimiques que le vivant connaît bien et utiliser ces réactions chimiques du vivant pour fabriquer des choses, par exemple, donc, comme je vous disais à l'instant, des molécules d'intérêt.
Alors, quand est-ce que c'est né la biotechnologie? Je me suis posé la question en préparant l'émission. Est-ce que ça, je sais pas, 2, 3, 5 ans, ou au contraire, ça fait 10, 20, 30 ans déjà qu'on fait de la biotechnologie?
Finalement, les biotechnologies, vous savez, là, je pense à mon collègue Pierre Monsan, le directeur de TWB, qui nous parle souvent d'archéobiotechnologie, voire de paléobiotechnologie. Vous savez, dès que vous faites du fromage, c'est de la biotechnologie, ça fait intervenir des organismes vivants. Les animaux de ferme, les animaux que nous modifions par les races que nous cherchons à avoir pour les vaches, par exemple pour la viande ou pour le lait, ce sont des biotechnologies. Les biotechnologies, c'est depuis que l'homme, depuis la révolution néolithique finalement, depuis que nous avons repris notre habitude sédentaire d'humain, eh bien nous avons eu besoin de culture, de construire des plantes, de construire des animaux. C'était fait à l'époque par de simples croisements un petit peu à l'aveugle, simplement désormais...
De manière assez empirique en fait.
Empirique, et désormais eh bien, nous avons un petit peu accès évidemment au code, hein, au code de génétique. Hein, donc la grande différence actuellement, c'est que nous avons accès au code génétique et les biotechnologies eh bien, désormais se font directement au niveau du génome. On comprend le génome, on construit du génome à des fins particulières. Donc effectivement, on en a toujours fait. Hein, des biotechnologies, simplement maintenant nous en faisons directement construites à partir eh bien, des programmations du génome, d'où aussi l'humain programmé du titre de notre forum Cité Éthique.
Et ce depuis quand en fait, quand est-ce qu'on a commencé justement à avoir ces capacités techniques que vous décrivez?
Alors le génome, donc la structure du génome est découverte en 1953, dès les années 1960-70 on commence à avoir des premiers travaux sur justement le génome et sur ses modifications.
Alors, quand j'ai pris la précaution dans l'introduction de ne pas dire parler que des biotechnologies, parce qu'en fait c'est évidemment plein de technologies, d'autres technologies. Alors j'ai essayé d'en serrer quelques-unes. Vous allez m'éclairer. Il y a aussi donc la microbiologie, la biophysique, la génétique, la biologie moléculaire, évidemment tout ce qui est informatique, le génie génétique, la bioinformatique.
Oui.
Et comment, comment vous aideriez les néophytes à marcher dans cette forêt?
Une cellule vivante est faite de molécules. Et ces molécules, eh bien, elles sont étudiées par des physiciens. Elles sont étudiées par des chimistes. Elles sont étudiées par des informaticiens. Finalement, on considère, à première approximation, qu'une cellule est en fait de molécules. On essaie de comprendre l'ensemble des réactions chimiques de ces molécules. On ne connaît que très peu, finalement. Maintenant qu'on commence à en connaître certaines. Par exemple, on connaît bien la structure de l'ADN, on connaît bien la structure de certaines protéines. Ainsi, nous avons besoin, eh bien, de spécialités scientifiques très diverses pour, par exemple, essayer, eh bien, de modéliser le vivant. Donc, des bioinformaticiens, des biophysiciens qui vont comprendre un petit peu les caractéristiques physiques des molécules, etc., etc. Donc finalement, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la convergence NBIC, nano, bio, informatique et sciences cognitives. Désormais, les travaux scientifiques se font à des échelles nanométriques avec des scientifiques de plusieurs disciplines, comme des physiciens, des chimistes. Et l'idée est vraiment désormais de comprendre le vivant à ces échelles-là, d'où ces spécialités dont vous venez de parler.
L'échelle nanométrique, vous pouvez redire, c'est quoi?
C'est 10 puissance moins 9 mètres. C'est vraiment c'est le milliardième de mètre.
Voilà, et des nanotechnologies, il y en a à Toulouse, il faut le dire. Oui, on a l'impression que c'est de la science-fiction, mais en fait, ça existe
les
déjà,
nanotechnologies, ça existe à Toulouse, ça existe dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que les nanotechnologies, c'est l'ensemble des sciences qui travaillent sur des objets de l'ordre du milliardième de mètre. Donc on peut fabriquer désormais des objets qui sont de la taille d'une molécule. Hein, il faut bien se dire ça, c'est-à-dire qu'une molécule, hein, c'est ces ensembles d'atomes qui forment des molécules. Désormais, on est capable non seulement, eh bien, de les décrire, mais on est aussi capable d'en fabriquer. On est capable de fabriquer des objets de cette taille-là. C'est absolument extraordinaire. C'est époustouflant.
L'année dernière, on avait fait une émission sur les nanotechnologies. Oui. Et en sortant de l'émission, l'invité m'avait montré sur son ordinateur qu'ils organisaient en fait la première course de voiture nanotechnologique.
Oui, exactement.
Voilà, ils étaient très fiers de leur véhicule qui, de fait, avait l'apparence d'un véhicule, c'est ce qu'ils trouvaient français, à la différence des Américains qui avaient un véhicule de type américain. Je me disais,
et effectivement,
à telle
y a
échelle,
courses.
Comment font-ils?
Oui, à l'échelle de la molécule.
Et la France a gagné, vous ne savez pas?
Oh, je l'ignore. Je suppose, évidemment, on est les meilleurs.
Juste, vous pouvez revenir sur le terme NBCI, parce que ceux qui sont familiers ont tout de suite tilté, les autres peut-être.
Alors, ce que j'appelle cette convergence, c'est-à-dire que c'est la convergence des sciences nanométriques, toutes les sciences d'échelle nanométrique, donc 10 puissance moins 9 mètres, le milliardième de mètre, toutes les sciences qui travaillent sur cette échelle, à cette échelle-là. La biologie, N, c'est nanométrique, B, biologie, hein, donc tout ce qui est fait de la biotechnologie, c'est donc l'ensemble des sciences qui utilisent cette échelle, qui comprennent cette échelle au niveau du vivant. I, informatique. Et effectivement, l'informatique qui nous permet de mieux comprendre cela, de faire des modélisations. Et ensuite, c'est les sciences cognitives, c'est-à-dire finalement, c'est tout ce qui nous amène à notre la meilleure compréhension du cerveau, compréhension de ce type de choses. Donc, c'est vraiment la compréhension de tout ce qui est cognitif. Donc, c'est l'ensemble fait cette convergence.
Et cette convergence, elle est récente aussi ou c'est...
Ah, c'est assez récent. Hein, c'est vraiment une transition fulgurante, comme dit Pierre Giorgini. Je pense sous votre contrôle, Catherine. C'est une transition. Ça a moins de 20 ans.
Alors, j'ai noté qu'il y avait
accéléré.
Même. Donc,
c'est très ça. Mais accéléré.
Récent mais accéléré. Catherine Dupré-Goudable. J'ai noté donc il y avait donc des terminologies aussi qui avaient été données. Alors je sais pas, je me dis que ça a quelque intérêt en tout cas pour le grand public. J'ai trouvé ça amusant. Donc il y a les biotechnologies vertes pour le monde agricole, rouge pour le monde médical, blanc pour le génie biologique, jaune pour la pollution, même orange pour la pédagogie
et noir même pour la guerre. Alors vous voyez, il y a tout. Donc effectivement,
ils sont bien choisis en l'occurrence.
Ah oui, bleu pour tout ce qui est océan atmosphère. Alors effectivement, c'est cool. Couleurs finalement sont intéressantes parce qu'elles permettent de donner, on va dire, un but à une biotechnologie, mais en revanche, elles ne sont que des couleurs assez factices dans la mesure où les biotechnologies, c'est toujours les mêmes, on va dire, c'est les mêmes sciences qui sont simplement mises à des services des buts très différents, et c'est d'où les questions éthiques que nous allons aussi. Donc effectivement, on peut, par biotechnologie, eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut arriver à sauver des gens, pourquoi pas, on peut s'intéresser.
Alors justement, venons-y, les applications, parce que. Donc je me suis plongé un petit peu dedans, donc j'ai vu certaines choses, mais vous avez certainement donné d'autres exemples, et peut-être pas cela. Entre autres, donc, j'ai retenu ces histoires de poissons, donc à partir de cellules de poissons, On pourrait demain créer donc des cellules de cœur. J'ai vu aussi que certaines molécules pourraient manger les marées noires. Est-ce que vous avez des exemples, si ce n'est pas cela, qui disent la réalité de ces biotechnologies Peut-être qu'il existe des réalités qui existent et des réalités futures.
Les poissons, ça je ne connais pas. Hein, je ne connais pas ces publications-là. Je ne connais pas ça. Simplement, je peux vous parler de ce que nous faisons donc, à Toulouse White Biotechnology. C'est-à-dire qu'effectivement, les biotechnologies peuvent permettre de produire des choses, de produire des molécules intéressantes, peuvent aussi servir mais aussi à la médecine. On parlera de biotechnologie rouge, c'est-à-dire d'essayer de comprendre l'évolution de maladies génétiques, par exemple, et d'essayer de voir en quoi les biotechnologies pourraient éventuellement aider à se battre tout simplement contre certains cancers, contre certaines maladies génétiques. Les biotechnologies, vous savez...
J'ai noté, excusez-moi, je fais juste une incise, que 67% semble-t-il des fonds qui sont attribués au Téléthon sont utilisés justement pour type de recherche.
Pour la maladie, c'est extrêmement intéressant. Je pense tout simplement, je pense au professeur Sahel à Paris, qui montre que, en utilisant la rétine de personnes en cécité totale, la rétine qui est donc en partie détruite, mais il reste de temps en temps encore quelques petits, si j'ai bien compris, je ne suis pas médecin, encore je pense sous votre contrôle, Catherine, quelques petites zones qui sont encore en assez bon état, la biotechnologie va prendre donc finalement on va reprendre cette rétine. On va la reconstruire un petit peu, on va utiliser du vivant, on va utiliser aussi des molécules toutes simples, on va utiliser des nano-objets, des petits robots qui vont faire en sorte de reconnecter du vivant avec de la machine. Et ce vivant avec de la machine a permis au professeur Sahel de rendre, non pas la vue à des personnes en totale cécité, mais des personnes capables désormais de lire un texte. En lettres, je crois, blanches sur un fond noir, en grandes lettres, mais des personnes qui sont à nouveau capables de lire, alors que c'est comme de l'ordre du miracle. Nous sommes ici à Radio Présence, et voilà, et ça, c'est les biotechnologies, c'est un petit peu ça.
J'ai vu qu'on avait réussi à redonner la vue à des chiens, par contre.
Il y a des choses comme ça qui peuvent se faire, c'est une chose absolument extraordinaire, parce que du coup, on arrive à connecter du vivant, des cellules vivantes, avec des nanorobots, si vous voulez, et qui pallient aux déficiences du vivant et qui permettent de retransférer des informations, par exemple, c'est le cas de la vue. Donc, vous voyez, ça va depuis la production de molécules jusqu'à la maladie, jusqu'à la mise au point, et aussi, il faut bien le dire, peut-être, pourquoi pas, la mise au point de virus, la mise au point de choses comme ça.
Est-ce que vous avez d'autres exemples à citer sur les biotechnologies ?
D'autres exemples, tout simplement, vous parliez tout à l'heure et vous avez parfaitement raison, on peut programmer, entre guillemets, le terme programmer, des bactéries, des êtres unicellulaires précisément pour dépolluer. Vous avez des organismes vivants qui vont se régaler de manger du cyanure. Cyanure, c'est pas très bon, ou le chlore, vous pouvez faire en sorte que des êtres vivants puissent consommer un certain nombre de métaux lourds ou en tout cas de produits polluants de façon à dépolluer des zones entières. Et ça commence à se faire, vous voyez. Ou alors fabriquer du plastique, ou énormément de choses comme ça qui peuvent amener pour l'être humain finalement à partager un environnement meilleur. En reprogrammant le vivant. Le vivant n'est pas fait pour manger tel ou tel type d'atomes.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser.
Il n'est pas fait pour ça, donc on le modifie. On modifie, ses caractéristiques de manière artificielle, et il le fait. Alors, ce n'est pas si simple. Là, je dis ça de manière un peu simpliste même. Mais l'idée, c'est de modifier le vivant dans son ADN, etc. On fabrique de l'ADN totalement artificiel. Il existe depuis 2010 des bactéries, plutôt des êtres unicellulaires, des mycoplasmes, qui vivent avec un ADN entièrement nouveau, entièrement artificiel. Voyez, totalement. Et on parle souvent de transgénèse. Une transgénèse, c'est un gène modifié. Mais désormais, depuis 2010, on est capable de fabriquer l'ADN entier. Donc, vous pouvez avoir des êtres vivants qui vivent avec de l'ADN fabriqué en laboratoire.
Incroyable. En tout cas, ça n'est pas sans poser de questions. Donc, on va faire une première pause musicale. Et puis après, évidemment, on parlera de toutes les implications éthiques. Et on donnera quand même la parole à Catherine Dupré-Goudable, qui a eu, je ne sais pas si c'est la courtoisie dans ce sens-là, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, de laisser parler beaucoup Vincent Grégoire Delory. J'ai noté justement une actualité qui peut intéresser nos auditeurs. On sait qu'à Toulouse, il y a pas mal de moustiques, de plus en plus de moustiques tigres, ça semble-t-il, à cause du réchauffement climatique. Et donc, le Haut Conseil des biotechnologies n'exclurait pas d'avoir recours recours à des moustiques génétiquement modifiés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez peut-être un petit commentaire.
Je suis pas spécialiste sur cette question-là, mais je sais qu'effectivement, pour le paludisme en particulier, des questions se sont posées. C'est-à-dire qu'on est capable désormais, si mes souvenirs sont exacts, eh bien, de modifier les moustiques pour supprimer leur hérédité. Enfin, pour modifier leur hérédité, voire même pour qu'ils ne puissent plus se reproduire. Ouais. En tout cas, ceux qui portent le paludisme. Et ça, je pense que vous pourrez nous en parler mieux, chère Catherine.
Je ne crois pas.
Et effectivement, on peut les modifier. Alors, c'est quelque chose d'assez terrible parce que finalement, on se donne l'autorisation de détruire, d'éradiquer une espèce animale parce qu'elle donne le palud. Sachant que quand même, il faut quand même bien dire que le paludisme, me semble-t-il, c'est une des premières causes de mortalité en Afrique. Moi, je suis allé à Madagascar pour ma thèse il y a quelques années. C'était le paludisme tue énormément. Donc, effectivement, c'est une question. Est-ce qu'on doit détruire un animal pour ne plus qu'ils transmettent le paludisme. Mais on est capable finalement de modifier. Alors c'est la même chose pour nos moustiques tigres, bien évidemment.
Voilà, excellente transition. On fait une première pause musicale et on vous retrouve tout de suite après donc pour un sujet de ce forum Cité Éthique qui donc commence aujourd'hui, place du Capitole et à l'Hôtel Dieu à Toulouse.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin donc sur le forum Cité Éthique. C'est pas tout à fait sur le forum Cité Éthique. En tout cas, on a choisi comme titre Biotechnologie, faut-il avoir peur? Et à l'occasion donc un forum Cité Éthique qui commence aujourd'hui donc place du Capitole et salle du Sénéchal à l'Hôtel de Ville à Toulouse. On en parlera plus longuement autour de ce plateau pour nous en parler. Catherine Dupré-Goudable qui est présidente du conseil d'orientation de l'EREMIP, espace de réflexion éthique Midi-Pyrénées, et Vincent Grégoire Delory, directeur de l'école supérieure d'éthique des sciences et de la santé et responsable du plateau éthique Toulouse White Biotechnology TWB. J'ai réussi cette fois. Ces biotechnologies, en fait, toutes les technologies associées, vous parlez de la convergence NBCI, c'est ça,
NBC,
Vincent,
oui.
NBC, Vincent Grégoire Delory. Rappelez-nous ce que ça veut dire déjà.
Nano, bio, informatique et sciences cognitives.
Voilà. N'est pas sans poser de questions. J'ai noté entre autres un livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, qui a écrit un livre en mai 2015 paru aux éditions Gallimard, L'avenir de la nature humaine. Et alors dans ce livre j'ai relevé la citation, enfin dans un extrait de ce livre, ou plutôt un article. Après les blessures narcissiques que nous a infligées Copernic et Darwin en détruisant notre image géocentrique du monde, l'autre, notre image anthropologique, peut-être accompagnerons-nous avec une plus grande quiétude cette troisième décentration de notre image du monde, la soumission du corps vivant et de la vie à la biotechnologie. C'est-à-dire qu'à lire du coup ce philosophe allemand, en fait, ça serait une révolution copernicienne, scientifique. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Catherine Dupré-Goudable? On dort tranquille, mais en fait, la révolution est en cours?
Oui, il faut dormir tranquille, on a besoin de dormir. L'être humain a besoin de dormir, ne serait-ce que pour suivre, justement, au plus près et au mieux, les progrès de la science. Nous avons tous besoin des progrès de la science. Mais les grandes avancées scientifiques ont toujours effrayé l'être humain, effrayé, soit passionné, emballé, jusqu'à tomber vers les inconditionnels du progrès, qui sont excessifs, ou bien effrayés, on a refusé. Il ne faut pas refuser le progrès, mais il faut réfléchir exactement à ce que contient un progrès scientifique, aux promesses qu'il contient pour l'humain dans son applicabilité à l'homme. Il y a le progrès scientifique qui n'est pas forcément un progrès humain. Et là, nous avons besoin des sciences humaines et sociales, nous avons besoin des philosophes comme Habermas et tous ces penseurs, et des scientifiques sont devenus des penseurs aussi, hein, qui s'installent dans la réflexion.
Vous voulez dire, ils ne sont pas forcément tous des penseurs, mais peut-être qu'ils ont pris l'habitude de...
Ils se sont exprimés aussi comme des penseurs. Hein. Aujourd'hui, on refuse le cloisonnement entre les sciences pures, hein, de la vérité, du vivant, des travailleurs de la preuve, comme disait le philosophe Bachelard, pour avoir des réflexions que l'on dit non cloisonnées, transversales, et des échanges nombreux, c'est ce qui se passe au sein des structures de réflexion éthique.
En
voyez
France,
là, vous avez entendu
en
parler.
France, ou dans le monde, vous dites, en fait, ce décloisonnement, il est général ou...
C'est général. Hein, c'est dans le fait qu'on a réalisé que c'était finalement artificiel de ces... paraît comme ça, des options scientifiques ou sciences humaines et sociales.
Alors, je reviens quand même sur cette révolution.
Oui.
Est-ce que c'est une révolution, du coup, qui est de la même ampleur que la découverte de Copernic ou la découverte d'un Darwin, ce qui est en train de se vivre aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment...
Aujourd'hui,
on
c'est
retiendra
qu'il
y a... le 21e siècle comme l'époque de cette révolution.
Il se passe quelque chose qui est révolutionnaire. Vous avez souvent entendu ce mot de la part de vendeurs d'objets que nous utilisons, hein, qui sont les téléphones intelligents par exemple. C'est révolutionnaire. C'est vrai que ce qui est révolutionnaire, c'est cette accélération du progrès de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la mise à disposition d'outils magnifiques, très rapide, que l'on dit intelligent, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faudra y revenir certainement, hein, pour offrir à l'homme des outils faramineux dans tout ce que ça peut offrir de possible, de progrès. Et là, toujours avoir la vigilance pour voir si ce progrès technique est une richesse pour l'homme ou une menace, laquelle.
Oui. Saint-Grégoire de Lory.
Disons que c'est vrai que vous parlez de Copernic, centre... Où est le centre ? Qui est le centre ? Le centre de l'univers, du monde ? C'est vrai que c'est extrêmement important. Moi, j'ai envie d'être le centre du monde. J'aimerais bien que la planète soit le centre du monde. Ensuite, l'homme, en tant que descendant d'un animal, je n'ai pas tellement envie de descendre d'un animal, ça fait bizarre. Et là, maintenant, la troisième
Même
révolution...
Même s'il faut préciser ce que ça veut dire.
Ah oui, précisons pour les chrétiens, c'est de préciser que l'évolution biologique, on ne confondra pas l'hominisation, donc l'évolution biologique et l'humanisation, que nous traitons, nous, en éthique, cette question-là. Mais effectivement, nous avons une seconde blessure, quelque part, narcissique, dont vous venez de faire écho. Et la troisième, finalement, c'est pour rebondir sur ce que vous dites, chère Catherine, c'est effectivement l'homme possesseur de l'homme. L'homme constructeur de l'homme. Hein, on n'est plus le centre
c'est
de l'univers.
Dépossédé de lui-même,
ou surpossédé de lui-même. C'est-à-dire que nous ne sommes plus le centre de l'univers, nous descendons des animaux, et quelque part on va se venger en nous construisant nous-mêmes, en devenant nous-mêmes notre propre norme, en nous construisant nous-mêmes. Le génome est héréditaire, je le modifie pour que mes descendants soient différents, soient mieux que je le voudrais. Habermas en parle d'ailleurs, hein, de cela. Et c'est cette question-là qui est extrêmement intéressante. Cette troisième révolution, c'est de mettre au service la technique, mais quelque part pour revenir sur ces blessures-là, et pour finalement devenir invincible, devenir l'homme invincible, entièrement modifié, pour devenir finalement, pourquoi pas, un surhomme.
Alors là, plutôt, vous nous dressez un portrait plutôt inquiétant. Donc, en effet, on parle souvent dogme augmenté ou dogme 2.0. On lit même, alors je ne sais pas si c'est juste, mais que, comment dire, qu'il y aurait déjà des hommes qui auraient des puces implantées pour amélioration, et pas que dans des cas de maladies graves. Si on devait dresser, évidemment, le but, ce n'est pas de se faire peur, mais pour voir les enjeux, ça voudrait dire quoi demain, une mauvaise utilisation de cette révolution en cours ? Vous auriez des exemples ou pas ?
Moi, je dis souvent à mes étudiants qu'on peut avoir Facebook. Alors, Facebook, c'est simple parce que je vais me mettre en réseau avec des gens que j'ai envie de voir. Bon, et tout le monde peut avoir envie de voir des gens. Pourquoi pas se disputer ? On supprime la relation. Mais imaginez désormais, et ça commence à arriver dans les pays anglo-saxons, que vous n'ayez plus un Facebook, mais ce que moi j'appelle un bio-book ou un géno-book. Il s'agit, pour certaines entreprises, et ben c'est interdit en France, hein, et bien de pouvoir de vous donner des cellules de votre corps, hein, et avec, moyennant un chèque, on vous renvoie un séquençage ADN. Mais c'est fait de manière intéressante dans la mesure où on vous renvoie une interface graphique avec une carte du monde et qui montre, par exemple, les gens qui sont proches de vous sur le plan des mutations génétiques, par exemple. Alors, ça peut avoir un intérêt.
Quel intérêt ?
Par exemple, la recherche en filiation de paternité. Ça peut avoir des intérêts de ce type-là. Mais ça peut avoir aussi quelque chose de beaucoup plus troublant, c'est que qui va nous empêcher, nous, humains, de dire que dans tel pôle génétique, il y a plus de gens qui ont réussi ou moins réussi ? Il y a plus de ceci ou plus de cela. C'est-à-dire revenir un petit peu à cette idée de la génétique qui fait que je suis plus ou moins pur. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, c'est l'idée qui est derrière moi. Je compare mon sang, je compare mes gènes à d'autres poules qui ne sont pas comme moi. Et je peux les considérer comme supérieurs, inférieurs. Vous voyez, ce sont des genres de choses comme ça. Vous savez, on parle souvent du transhumain ou de l'humain 2.0 dont vous venez de faire écho encore. Là, on imagine avec des puces, vous l'avez dit vous-même, un homme rempli de puces, un homme rempli d'objets techniques qui nous feront... L'homme qui valait les 3 milliards, qui valait 3 milliards de Steve Austin, de jadis, hein, ceux qui nous écoutent et qui ont connu les années 70 se souviennent très bien de cet homme qui était bionique. Il voyait plus que tout le monde, il entendait plus que tout le monde. Tout ça, c'est vrai, ça peut exister. Mais ce qui peut exister aussi,
c'est potentiellement plus de la science-fiction.
C'est plus de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'augmenter, un homme
on
augmenté.
On peut déjà ou on va pouvoir.
On peut, regardez, comme je vous ai parlé tout à l'heure de ces personnes qui recouvrent la vue, c'est une augmentation non négligeable, où on peut entendre mieux, on peut y voir mieux, tout ce genre de choses. Mais on peut aussi, et ça il ne faut quand même pas l'oublier, modifier le génome dès les gamètes ou dès les premiers stades embryonnaires, modifier le génome de manière à ce que la personne qui va naître soit elle-même modifiée en amont. C'est-à-dire que du coup, on touche directement, on va dire, les caractéristiques génétiques d'un individu dès le début. Et ça peut faire aussi des modifications dans la mesure où la personne est désirée, l'enfant est désiré et aussi construit. Ou peut-être que construit, allez savoir.
Et ça,
il y a des questions fondamentales.
Ça, c'est à venir ou c'est déjà possible ? Est-ce qu'il y a déjà des cliniques qui font ça ? Ou non, parler de cliniques américaines où on peut choisir la couleur des yeux de ses enfants.
Ce sont des choses qui peuvent se faire. Oui, ce sont des choses qui peuvent se faire, mais disons que de plus en plus, mieux on connaît l'ADN, mieux on connaît les mutations, mieux on connaît les informations engrammées au sein de l'ADN, plus on peut effectivement travailler là-dessus. Mais attention, et ça, je crois que c'est important pour les auditeurs, il ne faut pas s'imaginer que l'ADN, c'est un programme informatique. Ça, c'est extrêmement important. On utilise souvent l'idée selon laquelle l'ADN, c'est un peu comme un programme informatique de nos ordinateurs. On appuie sur un bouton, ça s'allume, soit ça fonctionne, soit ça plante. Ça, c'est le programme. Non, l'ADN est un code. C'est-à-dire que l'ADN n'est pas du tout un programme qui fonctionne. L'ADN, c'est quelque chose qui se déploie, c'est quelque chose qui exprime, l'ADN exprime des informations ou pas, en fonction de ce que vous êtes, de votre humeur, en fonction de l'ensemble du corps. On appelle ça l'épigénétique, c'est-à-dire que l'ADN exprime des choses en fonction de son environnement. C'est donc quelque chose de beaucoup plus complexe qu'un simple code. Autrement dit, si je veux modifier l'ADN pour obtenir une caractéristique, je peux me tromper mais complètement, et le code de l'ADN, et du moins l'expression de l'ADN, peut partir dans un sens pas du tout prévu.
Alors, je passe de l'homme augmenté à la nature augmentée, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais c'est pour prolonger la conversation. Je suis tombé aussi sur une tribune parue dans le Figaro Vox d'un certain Gérard Kafadarov, ingénieur agronome, qui, sur les OGM, et alors sa position c'est qu'il se désole du fait que la France aurait pris du retard en la matière. Je cite: « Pourquoi les OGM technologie agricole la plus rapidement adoptée dans le monde, restent rejetées en France malgré l'absence de réels progrès sanitaires ou environnementaux durant deux décennies. En 2016, dans le monde, 18 milliards d'agriculteurs ont fait le choix libre de cultiver des OGM, 500 000 agriculteurs en France en sont privés. » Est-ce que il y a un principe de précaution? Je ne suis pas un grand spécialiste, mais on peut avoir l'impression qu'il y a un principe de précaution autour des OGM en France. Est-ce qu'il y a un principe de précaution plus général en France sur cette convergence, sur ces nouvelles technologies? Est-ce que la France est à part sur ce sujet? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Catherine Dupré-Goudable?
Il faut revenir sur l'idée de principe de précaution. Hein. C'est un terme qui est un peu embarrassant, qu'il a été à un moment coinçant. On a dit principe de précaution, on arrête, on refuse. Non, c'est un devoir de réflexion qui n'est pas forcément un principe de refus du progrès. Alors la question des OGM ne pas dans mon domaine de compétence.
Oui, ma question, c'était pas sur les OGM, c'était est-ce que globalement, face à toute cette convergence technologique, est-ce qu'en France, on fait face de manière éthique et est-ce qu'on choisit de tempérer ou au contraire d'ouvrir largement les marchés?
On est tous. Et tous, il faudra y revenir, on est tous dans un devoir de réflexion. Hein. Il y a un autre philosophe qui a dit, on peut, maintenant on peut, donc on doit. On peut faire, donc on doit réfléchir à ce qu'on risque de faire en faisant trop bon dans l'application des progrès, comme ça. Qu'il s'agisse d'organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture ou d'humains génétiquement modifiés dans le futur, si on exagérait. Hein? Donc ce principe de précaution, il s'applique, mais il doit s'appliquer raisonnablement, sans être obstinément freinateur dans le refus du progrès. On peut le dire comme ça. Mais on est tous dans le devoir de réflexion, y compris les citoyens. C'est pourquoi il y a un forum.
Alors on y reviendra sur le forum éthique. En tout cas, vous dites que oui, c'est ça. Il faut tous qu'on s'y implique. Mais il n'y a pas, comment dire, la France ne fait pas bande à part sur ces sujets. Elle ne freine pas, on va dire, ce type de recherche.
Non.
Disons que toutes les recherches qui touchent au vivant, eh bien, sont toujours un peu particulières. Tous nos auditeurs, tout le monde peut se dire quand même, le vivant, il ne faut pas y toucher comme ça. Il y a dans le vivant quelque chose de mythique. Le vivant, on voit bien qu'il n'obéit pas totalement à ce qu'on voudrait. On voit bien que le vivant, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas un simple système physique tout bête qu'on arrive à contrôler. Donc, quelque part, il y a dans la plupart de nos civilisations une idée très forte selon laquelle attention à ne pas trop toucher au vivant.
Il y a une conscience, une forme de sacralité.
Une forme de sacralité,
c'est un
je
reste
pense.
De culture chrétienne
Pourquoi? Enfin, de culture chrétienne, je dirais humaine. C'est-à-dire que nous, humaine. Les chrétiens, les catholiques, les chrétiens en général, avons effectivement cette conviction de l'acte de Dieu. Et cette conviction de l'acte de Dieu peut nous amener à se poser la question de savoir, attention, qu'y a-t-il de sacré s'il y a du sacré au sein du vivant en tant que vivant? Est-ce que le vivant signifie quelque chose de l'acte de Dieu, ou est-ce que le vivant est simplement une combinaison moléculaire qui fonctionne très bien, etc. Donc effectivement, qu'on soit chrétien, on peut le poser la question de la même manière, mais la plupart, toutes les religions vont poser la même question, ainsi que les philosophes, on va dire finalement, quand on touche au vivant, est-ce que quelque part, on ne fait pas, vous savez, cette fameuse locution du « playing God », on va l'utiliser pour le vivant, beaucoup plus facilement.
C'est quoi le playing God?
Playing God, donc effectivement, pardonne-moi, jouer à Dieu, se prendre pour Dieu. C'est-à-dire que je vais moi-même être Dieu en modifiant le vivant à ma guise. Et quelque part, il y a, je pense, dans nos fondements mythiques, nos fondements inconscients, quelque chose qui dit, attention, que faisons-nous? Qu'avons-nous comme, je dirais, comme garde-fou à cette volonté? Et finalement, comme je disais tout à l'heure, de nous auto-approprier, comme si finalement nous n'avions plus besoin de Dieu. Et là, donc évidemment, on peut comprendre que parfois, nos contemporains se disent, attention, ils vont peut-être trop loin, ils sont en train peut-être de toucher à quelque chose. Alors effectivement, il y a tout un débat. Hein. Vous savez, beaucoup de en tant que scientifique, on ne va pas mettre Dieu, évidemment, au fond des bactéries, bien évidemment. Mais quand même, ça nous ramène à des questions de manière extrêmement fine sur notre rapport au monde, à la nature, tout particulièrement au vivant, et évidemment à l'homme.
Au vivant, et vous disiez tout à l'heure qu'on on pouvait maintenant faire des organismes en fait de synthèse, c'est ça en fait où j'avais noté qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la biologie de synthèse, c'est-à-dire qu'on peut créer quasiment des êtres vivants. Et tout à l'heure vous parliez de, alors j'ai peut-être pas tout à fait saisi, mais d'organismes en fait qui ont été complètement créés, c'est ça?
Alors non, pas tout à fait. Disons que il y a l'idée de la biologie de synthèse.
Merci de votre patience.
Mais je vous en prie. La biologie dite de synthèse est l'idée selon laquelle, eh bien, je vais regarder le vivant, je vais regarder toutes ses fonctionnalités, les molécules, et je vais me dire, mais si j'arrive à connaître toutes ces molécules, un petit peu comme ce seraient des Legos. Je me dis, je prends tous les Legos du vivant, et qu'est-ce qui m'empêche de fabriquer ces Legos et de construire du vivant? Donc ça, c'est l'idée de base. Maintenant, on n'en est pas là. Jusqu'à présent, on est capable de fabriquer un certain nombre de Legos, comme l'ADN, c'est un Lego, des protéines, c'est un autre Lego, mais on n'est pas encore capable de fabriquer entièrement du vivant, mais pas du tout. Ce qu'on est capable de faire, c'est fabriquer des Legos très importants comme l'ADN, et de mettre dans les Legos des informations qui vont faire que le vivant va se déployer dans une orientation non pas voulue par la nature de l'évolution biologique, mais par la volonté humaine, ce qui est déjà énorme. Mais il est vrai, vous avez raison, qu'une des idées importantes de la biologie de synthèse, ce serait un jour, à partir de Lego, inerte à partir de molécules non vivantes, et bien les mettre ensemble Et faire surgir du vivant, et faire advenir du vivant. Alors on en est très très loin encore, mais on travaille, c'est la biologie de synthèse qu'on appelle bottom up, hein, depuis le sol vers le haut. Cette biologie de synthèse, on commence on fabrique des vacuoles, on fabrique des protocellules, on fabrique des choses comme ça. On est très 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 loin d'avoir des cellules vivantes qui se dupliquent, etc. etc. Mais c'est l'idée c'est à la fois de simplifier le vivant, de mieux le comprendre, de le construire, d'en développer des nouvelles formes, mais à partir d'être vivant, qu'on va donc orienter. Et la seconde partie, c'est aussi d'essayer de construire du vivant ex nihilo. Alors ça, effectivement, ça va nous faire bizarre. Si ça arrive, eh bien oui, nos auditeurs chrétiens, quelle est dans notre foi chrétienne, qu'est-ce que ça signifie dans notre foi chrétienne, pour penser notre foi chrétienne, en se disant qu'on est capable, qu'on pourrait un jour, et ce n'est pas le cas, je le répète, être capable de fabriquer du vivant. Comment on peut le penser? Et ça, c'est extrêmement important. Et ça demande une réflexion toute particulière vis-à-vis de l'acte de Dieu.
Quel est l'accompagnement éthique de ce type de recherche? Si vous deviez nous faire un balayage, Catherine Dupré-Goudable, j'ai envie de dire, d'une échelle régionale à une échelle mondiale. Donc là, il y a les REMIP, Espace de réflexion éthique Midi-Pyrénées. Il y a ce qu'on appelle, on entend parler dans la presse, dans les médias, le Comité consultatif national d'éthique. Est-ce qu'il y a aussi une échelle mondiale? Est-ce que, je sais pas, on se réunit et puis après chacun part dans sa région pour essayer de vivre ça chez soi, ou est-ce que ça se fait de manière complètement désorganisée ou disparate?
Non, la réflexion éthique aujourd'hui est organisée. Elle intéresse chacun d'entre nous. Hein. Le terme d'éthique paraît quelquefois difficile, restrictif, élitiste. Et il faut démystifier cela, cette réflexion, on le sait, on le voit auprès des jeunes, déjà dans les collèges, ils posent le questionnement éthique.
Alors ça, on y reviendra, mais sur l'organisation voilà. Un peu de cette...
Non, mais pour dire que donc, l'organisation, elle est à la fois individuelle et regroupée, pour qu'il y ait un regard diversifié à partir de différentes cultures, de différentes expériences professionnelles, de différentes croyances. Hein, la réflexion éthique s'aborde comme ça, dans la pluralité. Hein, eh bien, elle s'organise, que ce soit déjà au sein d'une entreprise, au sein d'une unité de recherche, de chercheurs, au sein d'un service médical, au sein d'un établissement médical. Chaque établissement de soins maintenant a son comité ou son espace de réflexion éthique.
Même des cliniques privées
Même les cliniques privées.
Elles y sont tenues, en fait, c'est ça?
Partout, une maison de retraite, un établissement d'hébergement, un EHPAD, vous savez, les établissements d'hébergement des personnes âgées. Ils sont tenus de le faire. Hein. Vous savez, il y a les systèmes de vérification, d'accréditation des structures de santé. On leur demande s'ils ont une démarche éthique, de réflexion sur... Bon, voilà. Donc, partout, la réflexion éthique s'organise. Donc, à l'échelon individuel, de structures professionnelles, puis à l'échelon départemental, à l'échelon régional. Il y a, dans chaque région, comme notre structure REMIP, un espace de réflexion éthique régional. D'ailleurs, l'REMIP va s'appeler... Espace de réflexion éthique Occitanie, puisque nous le regroupons, hein, pour l'ensemble de la région qui est maintenant la région Occitanie. Quittons l'échelon régional, on passe à l'échelon national. Il y a un CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui répond à de grosses questions posées par les politiques, posées par les chercheurs, posées par les structures d'établissement ou les structures régionales. Il travaille en relation avec toutes ces structures. Nous avons un programme de travail actuellement avec le président du CCNE, hein, qui tend à regrouper justement...
L'échelle mondiale, du coup, c'est quoi?
Ensuite,
c'est...
il y a une échelle européenne et il y a une échelle internationale, oui, au niveau de l'UNESCO.
Voilà, et ça, je ne sais pas, ça prend... Pour l'UNESCO, je vais vous retrouver le nom, c'est le Comité international de bioéthique de l'UNESCO.
Voilà, avec...
Ça veut dire que sur cette convergence NBCI, je ne sais pas, il y a déjà des réunions...
Il y a des réunions internationales.
Je crois que vous avez participé à une, non, Vincent Grégoire Delory, vous me disiez, en préparant l'émission.
Oui, c'était pas sous l'égide de l'UNESCO, c'était aux États-Unis à Atlanta en 2015. Hein, il y a eu justement, on s'est réunis sur la question justement du génome et du transhumanisme, pour savoir s'il pouvait y avoir éventuellement une déclaration commune internationale sur justement ces questions-là. Donc c'est en train, hein, c'est en train de se travailler. L'UNESCO effectivement travaille beaucoup, le comité d'éthique des sciences de la santé de l'UNESCO travaille beaucoup sur ces questions-là. Mais j'aimerais préciser le fait que les comités sont des choses extrêmement intéressantes et il faut qu'il y en ait. C'est le cas de l'ERIMIP. L'ERIMIP travaille beaucoup et l'ERIMIP fait en sorte de mettre ensemble des médecins, des ingénieurs, des sciences humaines et sociales, vraiment de tout le monde, parce que, tout simplement, l'éthique, désormais, ça se fait directement au laboratoire. Hein, c'est assez nouveau, ça. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de scientifiques, et on le voit à l'ERIMIP, puis on le voit, moi je le vois au sein de TWB, Toulouse Wide Biotechnology, où je travaille, où on voit très bien des scientifiques, des ingénieurs, eh bien, demander une réflexion éthique sur la paillasse. Et donc, il y a à la fois les espaces de réflexion et les travaux d'éthique sur la paillasse, je dirais, qui finissent par se rejoindre et faire vraiment un travail de plus en plus décloisonné, comme vous disiez tout à l'heure, Catherine, complètement décloisonné, où on ne dit plus désormais que le scientifique pur et dur est séparé du philosophe ou des sciences humaines et sociales de manière générale. Et ça, on le voit désormais de plus en plus à tous les niveaux, et l'ERIMIP en est vraiment une signification concrète.
Alors on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour une troisième partie plus rapide pour revenir un peu plus dans le détail sur ce forum Cité Éthique donc, qui s'ouvre aujourd'hui à Toulouse. Je rappelle, place du Capitole et celle du Sénéchal à l'Hôtel Dieu. On vous retrouve dans un instant. Ce Vivante Église, donc en cette semaine de rentrée, biotechnologie, faut-il avoir peur? Donc avec Catherine Dupré-Goudable, donc je vous rappelle présidente du conseil d'orientation de l'ERIMIP, espace de réflexion éthique de Midi-Pyrénées, et Vincent Grégoire Delory, directeur de l'école supérieure d'éthique des sciences et de la santé, et responsable du plateau éthique Toulouse White Biotechnology, TWB, à l'occasion, vous nous prenez en cours de route, donc du Cité Forum Éthique qui s'ouvre aujourd'hui à Toulouse. On va donner toutes les informations nécessaires au fur et à mesure de cette troisième partie. Juste, donc on en a parlé comme en apéritif, Catherine Dupré-Goudable, qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, place du Capitole? Et il y a une logique, vous pouvez nous expliquer, en fait, on peut arriver place du Capitole et petit à petit être guidé à l'intérieur de l'Hôtel Dieu pour arriver à celle du Sénéchal. Quelle est cette logique?
Alors, la logique, c'est de donner accès à ces sujets de réflexion à tout le monde, aux passants de la rue, tout le monde, quel que soit l'âge, la profession, la culture, l'information initiale sur ces questions. Donc il y a pour cela un village, place du Capitole, qui va être voisin à cette date, d'ailleurs, d'une autre manifestation qui est le PADEL. Et il y aura des pagodes réservées à l'ERIMIP pour présenter les objets que justement la science a mis au point aujourd'hui pour donner accès à une réalité virtuelle, par exemple, par l'intermédiaire d'un oculus, un appareil qu'on met devant les yeux, eh bien, on pourra avoir l'impression de voler, de survoler une région.
De survoler la ville de Toulouse, entre autres ou...
La ville de Toulouse, ou peut-être le Grand Canyon, je ne sais pas.
Vous faites rêver.
Je ne sais pas s'il y aura le choix. Mais en tout
vous
cas,
full, là,
on va décoller, ça va décoller. Hein, et c'est magique, c'est merveilleux.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme initiation, on va dire, scientifique ?
Autre exemple, on pourra avoir l'expérience d'un drone qui ne vole pas, qui rampe et qui saute, je crois, comme c'est droit. Drones qui sont utilisés dans différentes professions, dans la guerre, mais on ne parlera pas de guerre, c'est pas notre spécialité, c'est top secret. Donc des drones mis à disposition du grand public, adultes comme enfants, hein, c'est volontairement ludique, cette mise à disposition d'objets dans le village Place du Capitole, pour montrer justement les bénéfices des nouvelles technologies. Il y aura aussi la présentation d'objets connectés. Tous ces objets connectés qu'on se connaît maintenant, la montre pour faire du sport, enregistrer nos performances, un smartphone pour enregistrer nos données biologiques que l'on donne, on ne sait pas à qui exactement, qu'on partage avec ses amis.
Et donc si on est interrogatif sur la portée de ces nouvelles technologies, on continue le chemin et là on arrive...
Voilà, si on veut aller au-delà de la vitrine et se poser des questions, eh bien... on aura le programme là et on pourra aller assister aux conférences. Si on a loupé les conférences qui vont se passer ailleurs, premier jour à l'Hôtel Dieu et ensuite le deuxième et le troisième jour, salle du Sénéchal rue de Rémusat à proximité de la place du Capitole, conférences et table ronde pour là écouter des experts dans un langage tout à fait accessible pour tout le monde, avoir des explications et pouvoir partager un questionnement.
Voilà, alors vous l'avez dit à plusieurs reprises dans cette émission, pour vous c'est très important, tout le monde peut légitimement se poser des questions et c'est pas, ça n'a pas l'air d'être fake quand vous en parlez, parce que parfois le comité consultatif national d'éthique, lors des dernières révisions des lois de bioéthique, ils avaient organisé des forums citoyens,
oui.
Je sais pas si c'est parce que ça intéressait pas grand monde, mais on se disait bon, ils nous consultent aussi peut-être parce que ça fait bien, c'est de la com, ça n'a pas l'air d'être votre cas, vous dites que...
Non. C'est pas de la com.
Et réexpliquez-nous pourquoi, peut-être. Pourquoi est-ce qu'il est important que chacun, en fait, s'interroge ou se pose...
Et ça répond à un besoin des politiques de savoir ce que pensent les citoyens. Le citoyen vote, hein, doit être éclairé, donc sur des choix politiques qui risquent d'être faits, qui vont être faits. Donc doit être bien éclairé, bien informé. Et puis ça l'intéresse, on voit en région Midi-Pyrénées déjà des gens qui se déplacent pour aller l'an dernier à Futurapolis, qui parlait un petit peu beaucoup d'ailleurs de ces choses-là, à la mêlée numérique. On voit des affiches, on a l'habitude quand même, notre regard a l'habitude de rencontrer ces questions. Et puis quand on discute autour de nous avec des jeunes ou des amis que l'on rencontre, qui ne sont pas forcément déclarés réflexion éthique, dire « mais oui, ça m'intéresse, les robots, ah oui, vous allez parler des robots, l'intelligence artificielle, les robots ». C'est passionnant, ça interroge déjà.
Alors, vous n'avez pas nous donné le nom de tous les intervenants, mais on imagine que si vous avez un parrainage comme celle de Claudie Aigneré, s'il y a aussi une communauté scientifique de haut vol qui est réunie, si vous deviez mettre en bouche ceux qui sont peut-être plus férus, qu'est-ce que vous diriez, soit vous, Catherine Dupré-Goudap, soit Vincent Grégoire Delory, peut-être, sur les invités.
Les invités...
Je vois Jean-François Mattei, je vois quelques noms qui sont un peu connus quand même.
Dites les noms, il y en a qui connaissent Serge Tisseron, aussi un psychiatre, psychanalyste, qui s'intéresse à l'empathie des robots.
À l'empathie des robots, d'accord.
Oui, ouais, les relations humain-humanoïdes.
Voilà, et sur les thèmes des conférences, je ne sais pas, il y a une logique tout au long de... où c'est un petit peu... chacun peut aller y piocher ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a un logique dans le déroulement des
on peut y aller
du 7 au 10
comme on veut, entrer et sortir comme on veut. Une précaution cependant, il faut s'inscrire. C'est gratuit. N'importe qui peut y aller, c'est gratuit. Mais il faut s'inscrire parce que pour des questions de sécurité, les places sont contrôlées. Il suffit de s'inscrire à partir du lien.
Ça, on le dira à la fin, mais ma question, c'était plutôt, est-ce qu'il y a une suite logique ? C'est-à-dire, est-ce que le 7, je ne sais pas, on parle des biotechnologies, le 8, on parle du big data, le 9,
non,
on parle
comprendra très bien le 3, si on n'est pas allé au troisième jour, on comprendra le conférencier, même si on n'est pas allé écouter la veille et l'avant-veille. Hein. Il n'y a pas une progression d'un jour à l'autre.
Il
bien sûr, tout se complète et tout est intéressant. mais on a voulu balayer tous les sujets un petit peu tous les jours, même si les conférenciers ne sont pas les mêmes. Vincent va...
Disons que de manière tout à fait pratique, il y a des conférences, il y a aussi beaucoup de tables rondes, donc nos auditeurs peuvent venir avec leurs questions. Venir partager leurs questionnements sur les sujets qui pourront les intéresser à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, venir vraiment s'intéresser à ça avec leurs propres questions. Donc c'est quelque chose qui se veut interactif. Il ne s'agit pas du tout d'un congrès universitaire où des gens viennent parler de manière très savante sur tel ou tel sujet. C'est vraiment quelque chose qui se veut interactif. Nous venons parler, nous venons questionner et nous venons nous-mêmes être questionnés. Donc nous n'avons pas, vous savez, un travail éthique, on n'est pas là pour donner des réponses souvent, mais simplement pour bien préciser les questions. C'est déjà très important de savoir où sont les questions. Est-ce qu'on est dans le délire, dans les questions, ou est-ce qu'on est dans des choses vraiment sérieuses? Donc, voyez, venez avec vos questions, avec ce que vous êtes, hein, et vous aurez le choix.
Voilà, l'homme transformé dans la BD, objectif voilà. Connecté, médecine, mémoire et intelligence humaine en péril, la médecine est-elle l'alibi du transhumanisme, etc., etc.
Voilà.
Alors, peut-être pour finir cette émission, avant que je redonne les informations pratiques, j'avais une question quand même quant aux questions éthiques. Le Comité consultatif national d'éthique a peut-être bonne presse auprès de l'opinion publique, mais un peu moins chez les chrétiens. J'en veux pour preuve, et pas que, j'en veux pour preuve, par exemple, j'ai retrouvé cette citation de Jacques Testard, donc père scientifique du premier bébé éprouvette, qui dit qu'aujourd'hui, le Comité consultatif national d'éthique, et donc par dérivé, on peut imaginer tous ces comités d'éthique que vous avez décrits, c'est une forme d'éthique institutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction de ces comités, ça serait juste de dire prudence, mais de rarement dire non. Nous, à cette antenne, on a pas mal parlé des positions du Comité consultatif national éthique sur la procréation médicalement assistée pour des couples de femmes. Donc, avis qui a été rendu au printemps dernier. Alors, il ne faut pas tout mélanger, hein, mais il y a une certaine suspicion, on va dire, des catholiques et peut-être plus largement des chrétiens à l'égard de ces comités, de ces réflexions éthiques. Qu'est-ce que vous diriez pour détendre un peu l'atmosphère et donner aux gens envie quand même de venir, Vincent Grégoire Delory?
Bon, déjà, je crois effectivement il faut regarder un petit peu l'histoire de notre pays. Le divorce entre les sciences et la foi a été quand même difficile, hein, notre histoire nationale le montre. Mais il s'agit, je crois, pour la République française, quand la République française laïque organise des comités d'éthique, il ne s'agit pas pour la République de faire en sorte que les comités soient eux-mêmes une instance religieuse. Les religieux y participent, quelles que soient les religions. Il y a des personnes, des spécialités, c'est le cas à l'UNESCO aussi, hein, des personnes qui viennent aussi en tant que ceci ou cela, que telle religion. Mais attention, je crois qu'effectivement, la question, les comités d'éthique sont des scientifiques qui vont poser des questions. Poser clairement des questions, oui ou non, ceci ou cela. Ensuite, il va appartenir au comité lui-même de poser, on va dire, un certain nombre d'orientations qui peuvent se vouloir aussi laïques, mais ce qui n'empêche pas du tout, ensuite, chaque religion, y compris les catholiques, de se situer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'avis du comité et une vérité, une vérité totale, transcendante, qui serait révélée. Ce n'est pas du tout ça.
Mais l'avis du comité, en général, c'est un
avis consultatif.
Presque force de loi, en tout cas.
C'est vraiment consultatif. Donc, effectivement, il est important.
Mais il est souvent suivi par le législateur, en tout cas.
Alors, je ne dis pas le contraire. Il est vraiment important. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Simplement, il ne faut pas confondre l'avis du comité, me semble-t-il, même s'il est très important, avec un cas de conscience qui serait un cas de conscience religieux. C'est-à-dire que, ensuite, au sein de l'Église catholique, nous pouvons effectivement aussi avoir une position qui se fait, les positions des évêques de France, qui peut être différente, ou ceci ou cela. Donc effectivement, attention, et il ne s'agit pas pour l'Église de considérer les avis du comité comme force absolue, et il s'agit simplement, je crois que c'est important quand on discute avec les membres du comité national d'éthique, ce que j'aime bien entendre de leur part, c'est que ce sont des personnes qui viennent de tous horizons, mais avant de donner des réponses, ils aiment bien poser les questions.
Oui.
Poser les bonnes questions. Je crois que le comité est surtout là pour ça. Ensuite, il y a des questions qui pourront être reprises par chacune de nos religions.
Voilà, donc humain, programmé, éthique et nouvelles technologies, c'est donc le thème du site et forum éthique auquel vous pouvez vous rendre dès aujourd'hui. Je vous donne une adresse internet, forumcitéethique.fr, et sinon rendez-vous donc place du Capitole et à l'Hôtel Dieu ou salle du Sénéchal. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Présence et de Vivante Église ce matin pour nous parler de ce forum et plus particulièrement de toute cette révolution technologique en cours. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.